Bonjour et bienvenue à l'imparfaite qui a son mot à dire. J'espère que vous allez bien. Alors en partant, je vous suggère d'aller faire un tour sur le site web de l'imparfaite www.l'imparfaitequiasonmotadire.ca. Vous avez plein de belles choses à regarder sur le site et je vous demande également de bien partager les épisodes et de les télécharger aussi afin de pouvoir les écouter sur la route ou un peu partout lorsque bon vous semblera. Donc, le sujet de cette semaine, les miracles existent ou la foi que j'ai eue une vraie mère pendant 15 mois d'affilée. Eh oui, mon titre doit probablement piquer votre curiosité. C'est en partie le but. Je vous raconte l'histoire d'une femme qui a été violentée par sa mère, ridiculisée, battue, abaissée, et ceci sur une base constante pendant toute son enfance, adolescence et le début de l'âge adulte. Par contre, dans sa quarantaine, sa vie allait changer et celle de sa mère aussi. Cette histoire, c'est la mienne et je suis fière de la partager, car elle finit comme un conte de fées. C'est-à-dire que l'amour a fini par avoir le dessus. On s'en parle bientôt. Restez à l'écoute. Tourlou! Je vous ai déjà parlé de la relation que j'ai eue avec ma mère, n'est-ce pas, dans un des épisodes du début, je crois. Donc, je tenais à vous parler maintenant d'une période plus spécifique. Voyez-vous, ma chère maman avait un problème d'alcool. Depuis mon enfance, je me souviens que ma mère avait toujours un verre à la main. Le gin coulait à flot dans la maison, les caisses de bière la battent aussi, sans compter les bouteilles de vin et de fort comme le cognac. C'était normal de voir autant d'alcool dans la maison, car la plupart des maisons dans les années 60 et 70 avaient un petit bar et un choix d'apéritifs, de cocktails maison, de bières traditionnelles. Notre bar à nous, c'était l'armoire, vous savez, celle avec les tablettes qui tournent, et on finissait toujours par devoir se rentrer la tête dans le fond de l'armoire, car l'item que tu voulais était celui qui était tombé dans le fond de la chère tablette. Alors, ce coin était le coin des parents et la bière était la plupart du temps en bas dans la partie chambre froide. J'étais quasi habituée de voir mes parents sous l'effet de l'alcool. Ce n'était pas vraiment mal vu à cette période. Ce qui était mal vu, c'est ce qui se passait lorsque les invités partaient et lorsque le petit côté chaudasse devenait l'alcoolique coléreux et violent. Vous pensez peut-être que je parle de mon père, hein? Mais non. La violence chez moi venait de ma mère. L'alcool la transformait en monstre. Pourquoi j'ai autant de difficultés à gérer les gens en boisson? Mais ça vient de là. Je me souviens à l'âge d'environ 12 ans, 13 ans, devoir conduire pour nous ramener tous à la maison avec mon père à l'arrière et ma mère en avant, les deux complètement assommés. Avec mon père qui m'encourage à conduire en me disant « Bravo, tu fais bien ça! » Rendu à 14 ans, j'avais déjà probablement conduit plus souvent que la majorité des jeunes de 18 ans avec leur permis temporaire. Et lorsque vint le temps de faire mon cours de conduite, les derniers tests sur la route, mon instructeur m'a permis de ne pas les faire. Sachant que je maîtrisais très bien toutes les manœuvres, j'ai donc passé mon cours sans aucun problème. Je me souviens également des moments où nous étions en voiture. Oh, mon Dieu! Tempête de neige, mes parents Yves et mon père qui perdent le contrôle de la voiture et nous voilà pris dans un banc de neige. Par chance, nous étions à moins de 10 minutes de marche de la maison. Ma mère me prend par le bras, enragée bleue, m'ordonne de sortir de la voiture et de marcher pendant que mon père reste dans la voiture, à moitié assommé, non pas qu'il était blessé, mais plutôt semi-conscient, dû au taux élevé d'alcool dans son sang. On laissa mon père dans la voiture et nous rentrâmes à la maison. Lorsque mon père finit par arriver, il alla se coucher au sous-sol et on n'en reparla jamais. Des situations comme ça, j'en ai vécu à la tonne. Ah oui, des soirées où ma mère, tellement en colère et en boisson, décida d'appeler sa belle-sœur afin de crier au téléphone que mon père la battait et qu'elle voulait qu'ils appellent la police. Tout ça était faux. C'était souvent le contraire. Ma mère n'avait aucun problème à lancer de la vaisselle à mon père afin de tester sa limite, voir jusqu'où elle pouvait aller et jusqu'où il pouvait en prendre. Il ne l'a jamais touché. Je me souviens d'avoir espéré qu'il le fasse, mais il n'en était pas question. Il avait dû expliquer à son frère et sa belle-sœur que ce n'était pas vrai et qu'il n'était pas un abuseur. Elle lui avait lancé par la tête la phrase suivante. « Ils vont tous me croire et toi, l'imbécile, tu finiras en prison, espèce de con. » Ouf! Vous savez, tout ça se passait dans la cuisine et ma chambre à coucher était à peu près 20 pieds plus loin. Donc, c'est évident que j'entendais tout ce qui se passait. Hein? Des phrases comme ça? Ouf! Des phrases comme ça aussi, j'en ai entendu pendant des années. Elle était autant pour mon père que pour moi. Et pourtant, lorsqu'elle ne buvait pas, cette femme était complètement différente. Encore frustrée, oui, et souvent mal engueulée, mais pas violente, et même quelquefois très douce et remplie d'amour. Mes meilleurs souvenirs? Moi, malade. C'était à ce moment qu'elle devenait la mère idéale, celle que l'on voit dans les films du style avec Julie Andrews qui chante pendant qu'elle prend la température de mon corps et te pousse les mèches de cheveux sur le côté. C'était difficile de figurer quelle mère j'aurais du jour au lendemain. La gentille pleine d'attention ou la colérique qui blasphème un mot sur deux en me traitant de petite pute et en abaissant mon père en le traitant d'idiot et de perdant. Au fil des ans, les colères étaient plus fréquentes. Et j'ai donc fini par déménager vers mes 18 ans. Un appartement minable avec les plafonds dégoûtants. Entre autres, je me souviens qu'une partie de plafond m'était tombée sur la tête pendant que je prenais ma douche. Ça vous donne une idée du grand luxe de cet appartement. Je suis éventuellement retournée chez mes parents pour quelques mois avant de déménager avec mon conjoint du moment. J'étais à mes débuts vingtaine. Mais à ce moment, même mon père avait le goût de déménager dans mon appartement minable qui semblait un havre de paix comparé à ce qu'il vivait à la maison. Je lui ai demandé et supplié à maintes reprises de divorcer, mais il me répondait toujours la même chose. « Nous sommes ensemble pour le meilleur et le pire, il n'est pas question que je divorce. En plus, ta mère va me laver si je la quitte. » Cher papa! Toutefois, à la fin de sa vie, ils ont miraculeusement pu faire la paix avec leur passé et j'ai pu voir un amour profond entre eux. Leur regard parlait beaucoup. Ce fut une des périodes les plus touchantes que je n'ai jamais vécues. J'avais demandé à ma mère si elle avait parlé avec mon père afin de mettre les choses au clair. Je lui ai dit « Tu sais, tu ne veux pas avoir de regrets, maman. Il faut vraiment vous parler avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'a ensuite répondu qu'elle l'avait fait et qu'ils s'étaient tous deux pardonnés, car personne n'était parfait. Papa aussi avait ses défauts. Mon père avait demandé à ma mère qu'elle appelle l'ambulance aussitôt qu'elle ne pourrait plus prendre soin de lui. Il tombait de plus en plus souvent et maman avait de la difficulté à le relever. Une nuit, lorsque papa tomba dans la salle de bain, ma mère communiqua avec le voisin d'à côté pour avoir de l'aide. Et ils décidèrent, mon père et ma mère, qu'il était temps. Voilà, papa devait partir. Lorsque ma mère me raconta l'histoire, et même encore aujourd'hui, 13 ans après la mort de mon père, en vous la racontant, je suis très émue. Elle m'expliqua que le voisin, venu aider mon père, et lorsqu'il repartit, mes parents attendaient l'ambulance tout en s'étreignant de toutes leurs forces, en pleurant à chaudes larmes tous les deux. Ils se dirent à quel point ils s'aimaient et papa demanda à maman de bien prendre soin d'elle, qu'elle devrait aussi me téléphoner afin que je vienne maintenant chez eux. J'étais à environ 2 heures de route de leur maison. Maman continua en me disant que l'ambulance finit par arriver. Ils mirent mon père sur la civière et, rendu dehors, mon père regarda ma mère en pleurant, en lui envoyant la main et en lui disant d'une petite voix « Je t'aime ». Avez-vous une idée à quel point ma mère a dû avoir le cœur déchiré? Pauvre femme, elle avait vécu toute sa vie en étant très, très, très dépendante de lui. Elle ne sortait pratiquement jamais dehors, avait trop peur des piqûres de guêpes dont elle était allergique. Elle ne marchait pas dans le voisinage, ne conduisait pas, ne travaillait pas à l'extérieur de la maison, sauf à quelques reprises lorsque j'étais une jeune adolescente. Elle n'avait pas confiance en elle, avait peur de son ombrage. Et voilà que l'homme qu'elle avait connu depuis 1962, sommes maintenant en 2007, partait pour toujours. Elle m'a téléphoné et je partis immédiatement pour aller la retrouver. Par la suite, nous diriger vers le CHSLD où il était rendu, car il ne voulait pas aller à l'hôpital de Gatineau. Il voulait être à Saint-André-Avelin. Il a très bien été traité là-bas. Les gens ont fait des pieds et des mains pour nous aider, parce qu'il n'y avait plus de chambre de disponible et que papa devait sortir de celle où il était. Ils ont transformé un petit salon en une chambre privée. C'est extraordinaire. Ils savaient que papa allait mourir et afin de nous faire vivre ce moment de façon le moins stressant possible, ils ont accepté qu'il reste là jusqu'à la fin. Il y est resté 13 jours. Les premiers jours, des fois, il était conscient et reconnaissait quelques personnes, tandis que d'autres fois, non. Quelques heures après son entrée au CHSLD, lorsque je suis allée le voir dans sa chambre, je lui frottais les pieds. Il m'a regardé d'un air enragé en me disant « Vous êtes qui, vous? » Mais il ne me reconnaissait plus. Nous ne savions pas à ce moment que le cancer était rendu au cerveau. Quelques heures plus tard, il partit dans son monde, conscient, inconscient, jusqu'à ce qu'il ne soit plus conscient, mais encore vivant. Tellement difficile de voir un être cher dans cet état. Je suis restée à ses côtés 12 jours. 12 jours! À dormir sur une chaise ou un petit lit campement, un peu style lit de campement de guerre. Le 13e jour, maman était là et c'est à ce moment qu'il est parti. Ils étaient elle et lui et je crois un de mes oncles. Sa vie a complètement basculé et l'alcool devint son meilleur ami. Cet alcool lui vaut une cirrhose du foie et je l'ai appris que par hasard lorsqu'elle chuta pour se retrouver à l'hôpital. Ça faisait plus d'un an que je cherchais de l'aide car je voyais bien que ma mère n'allait pas bien. Mais semblerait que le système de santé est loin d'être parfait. Une infirmière du CLSC m'avait dit au téléphone « Vous savez, Claudine, il faudrait presque que votre mère tombe sans se faire mal, que l'ambulance vienne la chercher et enfin on pourrait la prendre en charge. » C'est ce qui arriva. Elle tomba. Elle était dans une résidence semi-autonome. Elle était tellement rendue grosse. Oh, ne voulait plus marcher, ne voulait même pas se laver, juste boire de l'alcool. Elle était enragée, méchante, elle sentait fort. Et ma mère avait toujours été coquette, bien mise, très propre, bien maquillée. Je savais que son état mental était en train de dégringoler, mais je n'arrivais pas à avoir de l'aide de personne. Et je sais ce que vous pensez peut-être, oui, mais si elle voulait de l'alcool, qui lui donnait? Mais c'était moi qui lui donnais. Parce que pendant un bout, j'avais arrêté de lui en donner et elle est devenue très violente avec les gens dans la résidence. Il m'avait dit, soit vous lui, continuez à lui donner de l'alcool parce qu'on sait que votre mère a un problème, elle ne peut pas arrêter du jour au lendemain, soit vous venez la chercher parce qu'on ne veut plus la garder ici. Je n'étais totalement désemparée, je ne savais pas quoi faire, je demandais de l'aide du CLSC, de l'aide de gens autour de moi, et personne ne savait quoi faire. Sauf la suggestion, ou peut-être l'espoir qu'elle finisse par tomber et enfin entrer dans le système. Donc, lorsque la résidence me téléphona pour me dire qu'elle était tombée et en direction vers l'hôpital, mais qu'elle était correcte, elle n'avait rien de brisé, j'ai décidé de ne pas manquer cette occasion en or. J'expliquai au docteur, en larmes, car j'étais épuisée de tout ce va-et-vient, comment elle était, à quel point elle avait changé. Et il m'a promis de faire tous les tests possibles et qu'elle ne sortirait pas tant qu'elle n'aurait pas un diagnostic et des solutions. Eh bien, chère maman resta à l'hôpital un peu plus d'un mois. Diagnostic, Alzheimer et cirrhose du foie. Allait-elle s'en sortir? Il ne savait pas. Elle avait toute une équipe qui s'occupait d'elle, plusieurs spécialistes, et en plus, il me téléphonait à tous les jours pour me dire ce qui se passait. Car voyez-vous, je ne pouvais pas rester en ville, car à ce moment, j'avais un petit café dans mon coin de pays. Je devais donc gérer mon entreprise, figurer les menus, faire les commandes, les recettes, accueillir, servir les clients, m'occuper de tout. Et mon cher mari qui travaillait des heures de fou et ensuite le soir ou les fins de semaine qui m'aidait à faire la vaisselle, on manquait de main. Et j'étais à environ 1h30 de route de ma mère. Disons que certains clients m'ont vu les larmes aux yeux, car c'était beaucoup de stress. Alors dites-vous bien que maman est entrée à l'hôpital à plus de 200 livres. C'est la cirrhose qui l'avait rendue si grosse. Alors, après quelques semaines d'hospitalisation, je passe peut-être 4 ou 5 jours sans la voir et ensuite, je me dirige encore vers l'hôpital. On m'avait expliqué que le médicament avait beaucoup aidé et lorsque j'arrive dans sa chambre, la femme que je vois n'est plus la même. Je suis figée. Elle est toute souriante et a presque perdu... Êtes-vous bien assis, là? Presque perdu 70 livres. « Seigneur, je n'ai jamais vu ma mère si petite. Sa peau a changé, elle a une peau de jeune fille, elle sourit, même sa voix a changé. Elle me regarde, me dit avec une voix d'enfant qui retrouve ses parents. « Oh, ma belle, enfin te voici. Viens ici, chérie, viens t'asseoir près de moi. Oh, » Elle parle à sa voisine de chambre pour lui dire avec fierté. « Ah, c'est ma fille, Claudine. » Ben, j'étais bouche bée. Qui était cette femme et comment elle avait perdu tout ce poids si vite? Pourquoi sa voix a changé? Mon Dieu, elle semble heureuse, joyeuse. Elle est fine avec le monde. Je vais dans le corridor et je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'expliquent qu'elle avait beaucoup d'eau dans l'abdomen et que c'est la cirrhose qui fait ça. Ils lui ont aussi donné des médicaments pour l'Alzheimer. Et le fait qu'elle n'a pas pris d'alcool depuis un bout aide aussi. Les infirmières n'arrêtent pas de me dire à quel point elles l'adorent, que ma mère est une femme remplie d'amour, que tout le monde sur l'étage l'aime. Quoi? Je comprends pas, là. OK, je suis dans un rêve. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est pas ma mère, là. Nous voilà donc en janvier 2011. Je ne savais pas qu'à ce moment, j'allais avoir 1 an pour apprendre à connaître cette nouvelle femme, pour me sentir aimée, pour l'aimer aussi et pour avoir enfin une idée de ce qu'une vraie relation sereine entre mère-fille pouvait bien avoir l'air. Les médicaments l'ont aidé beaucoup et grâce à Dieu, car je suis convaincue et personne ne viendra me dire le contraire, que c'est mes prières qui ont été répondues. C'était un miracle. Elle ne se souvenait même pas de son passé, de pas où elle vivait, pas vraiment de la mort de papa, pas de mon conjoint, pas du fait qu'elle était méchante, enragée et alcoolique. J'avais donc un beau tableau blanc sur lequel je pouvais travailler afin d'avoir notre deuxième chance à moi et à elle. Je lui ai parlé un peu de son passé, avec papa et de la violence. On pouvait voir à quel point elle était surprise et me dit « Oh non, pauvre Claude, qui était mon père, je l'ai rendu vraiment malheureux. » Elle ne paniquait pas, n'était pas en pleurs, elle était juste déçue pour Claude, dont elle ne se souvenait plus vraiment. Elle voulut savoir si elle était méchante avec moi aussi. Et voilà, la question qui tue. J'avais maintenant ma chance de me venger. Mais j'ai choisi à ce moment précis de pardonner. Oui. Je lui ai promis que je ne l'abandonnerais pas et que tout irait bien. Elle fut d'accord et lorsqu'un deuxième miracle se produit et qu'une spécialiste à l'hôpital trouva une résidence privée pour ma mère et à bon prix, on la déménagea en début janvier. Telle une maman qui dépose sa fille à l'école, lorsque mon conjoint et moi sommes allés porter ma mère à la résidence, nous sommes restés un bout, bien entendu, le temps de faire connaissance avec tout le monde et de bien installer maman. Elle arriva pour le dîner et fit connaissance avec, je crois qu'il y avait 12 personnes, peut-être un peu moins. Quelle ne fut pas ma surprise, maman se fit des amis en partant. On venait d'entrer dans la résidence. Ça faisait même pas une heure qu'on était là et déjà maman était éclatante de beauté, de bonheur. Elle rayonnait. Elle eut donc du plaisir en mangeant. Sa nouvelle amie prenait bien soin de maman et lui expliqua les règles de la maison tout en riant aux éclats. Et je vis le sourire de maman si grand. Elle était si fière lorsqu'elle me regarda. C'est comme si les rôles avaient basculé. J'étais maintenant la mère qui regardait sa fille avec fierté. Vraiment bizarre comme sentiment. Je sus que nous pouvions partir car elle était en de bonnes mains. Elle était heureuse et me dit joyeusement « À bientôt, ma belle! Je dois te laisser car ils chantent des chansons après dîner. Je veux aller me rafraîchir un peu avant. Bye-bye! » Et la voilà partie dans sa chambre. Et moi et mon conjoint, on est sur le bord de la porte, en état de choc. Et étant donné qu'on commence à pleurer, on décide que c'est maintenant le temps pour nous de partir. Et voilà, l'année qui suivit fut magnifique pour ma mère. Et en janvier 2012, par contre, sa santé recommença à basculer. Le médecin m'expliqua qu'une cirrhose, ça ne part pas comme ça. Ça peut, disons, se calmer avec des médicaments, mais éventuellement, si les dommages étaient déjà assez importants, le patient va en mourir. À la fin mai, maman rentra à l'hôpital et 3 jours après sa fête, c'est-à-dire le 19 juin, elle partit. Ce jour-là, j'étais au café et je sentis le matin comme un message me disant « Vite, 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 tu dois partir aller voir ta mère. » J'ai fermé tout de suite le café. Je suis partie à l'hôpital. J'étais assise au pied de son lit parce que pour moi, je pouvais mieux la voir. Je faisais semblant de lire, mais dans le fond, je n'arrêtais pas de la regarder. J'essayais de me calmer car maman n'était plus consciente et je savais bien trop que la fin arrivait. C'était trop évident. Soudainement, je sens que je dois aller à côté d'elle, ce que je fais à la vitesse d'un éclair. Je me mets à lui parler et lui dire que je l'aime, que je suis là, qu'elle n'a pas à avoir peur. Elle me serre la main très fort et pousse un grand soupir. Ensuite, 3 autres grandes respirations et le cœur arrête. Sa main éventuellement me relâche tout doucement et je la regarde un peu figée. J'attends 5 minutes et je vais voir les infirmières en leur disant « Eh bien, je crois que maman est partie. » 5 infirmières sont venues, toutes me disant à quel point elles l'aimaient. Nous étions tous autour du lit de maman. Elles me dirent à quel point elles ont été touchées par la gentillesse de ma mère qui ne se plaignait jamais, qui souriait toujours. Personne ne savait de qui elle parlait en ce moment, car maman n'était pas cette femme. Elle pensait que c'était ma mère depuis toujours. Non, cette femme, je l'avais eue pendant 1 an seulement. Une des plus belles années de ma vie. Une leçon de la grandeur de ma foi, de la grandeur du Seigneur. J'ai appris beaucoup pendant cette année. J'ai appris l'importance du pardon, l'importance de l'amour, l'importance des mots aussi. et comment le superficiel est vraiment sans importance. J'ai appris ce que doivent être mes priorités. Et même si elles ne sont pas la priorité des gens qui m'entourent, maintenant, je vis ma vie selon mes désirs, mes besoins et selon ce qui me rend heureuse. Je vis aussi ma foi avec conviction. J'essaie du mieux que je peux d'avoir toujours de l'amour dans mon cœur. Je profite de chaque instant de vie car c'est vrai qu'elle est si fragile. J'espère, chères auditrices, j'espère que vous aurez apprécié mon partage, ma tranche de vie impliquant ma chère maman. Et je vous suggère d'aller embrasser la vôtre si elle est toujours parmi vous. Faites les premiers pas. Vous verrez que de laisser l'orgueil de côté, c'est très payant au bout du compte. Merci beaucoup d'écouter l'imparfaite qui a son mot à dire. Je ne vous remercierai jamais assez. Allez voir sur le site web au www.l'imparfaitequiasonmotadire.ca et vous aurez le lien en haut à droite qui vous amène à la boutique en ligne de l'imparfaite vous parle. De beaux vêtements avec des messages inspirants pour les imparfaites que nous sommes. Allez partager le balado, parlez-en. Et allez faire du shopping pour les fêtes sur le site de l'imparfaite qui vous parle. On se revoit jeudi prochain. Prenez bien soin de vous et des gens autour de vous. Tourlou!